France Musique.
Mon cœur est un violon, à la recherche de Ginette Neveu.
Marina Schiff, France Musique.
Bonjour, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur France Musique pour le 7e épisode, l'avant-dernier de notre série d'été consacrée à la violoniste Ginette Neveu. La semaine dernière, nous fêtions le 100e anniversaire de cette grande violoniste trop tôt disparue. Aujourd'hui, nous allons explorer ses choix de répertoire et sa relation avec la musique de son temps. En effet, l'image qui nous reste de Ginette Neveu par sa discographie et par sa légende est celle d'une grande interprète d'un répertoire assez classique, somme toute, puisqu'elle excellait dans la chaconne de Bach, le concerto de Beethoven ou de Brahms. Mais en fait, Ginette faisait preuve d'une étonnante curiosité et elle était en prise avec son époque. Lors de ses voyages, elle découvrit des compositeurs et elle créa des œuvres dont elle fut la dédicataire. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps de tout enregistrer, ce qui fausse donc notre image actuelle. Et pour réussir à percevoir sa modernité depuis 2019, il nous faut faire par l'imagination un saut dans le temps. C'était une autre époque. Alors aujourd'hui, c'est Ginette Neveu qui fait la programmation. Écoutons-la nous parler de ses goûts musicaux.
Eh bien, en général, j'aime naturellement jouer la musique classique. C'est la base même, n'est-ce pas, de tous les éléments et de toutes les formes mélodiques de la musique. Mais je réserve aussi une très grande part à la musique contemporaine et également à la musique moderne, française et étrangère.
Et il faut tout de suite préciser que quand Ginette Neveu parle de musique moderne et de musique contemporaine, on est dans les années 40. Voilà ce qu'elle entend par là.
J'ai joué beaucoup d'œuvres contemporaines et modernes, française et étrangère, et parmi toutes les œuvres que j'ai interprétées, notons celles de Ravel, de Debussy, du compositeur polonais Szymanowski et le compositeur tchèque Josef Suk.
Alors oui, cela peut faire sourire pour nous, auditeurs en 2019. Szymanowski, Suk, Ravel, Debussy, de la musique moderne et contemporaine. Mais effectivement, Ravel ne meurt qu'en 1937, Ginette a 18 ans. Quant à Debussy, sa sonate pour violon et piano fut composée en 1916 et créée en 1917, soit 2 ans seulement avant la naissance de Ginette.
Thank you.
Ginette et Jean Neveu dans le deuxième mouvement de la sonate pour violon et piano de Claude Debussy, intermède, fantasque et léger. Effectivement, c'est une musique d'une modernité folle, encore aujourd'hui d'ailleurs. Il y a un traitement du temps disruptif, tout en discontinuité, et un traitement de la forme si ramassé. En ce qui concerne les autres compositeurs qu'évoque Ginette, comme Joseph Souk, à nos oreilles, c'est une toute autre affaire. Mais les quatre pièces de Souk, par exemple, datent de 1901. Quand Ginette les joue, elles sont relativement neuves et encore peu connues du public.
Eh bien, puisque nous parlons de Joseph Souk, vous ne voulez pas nous dire quelques mots de lui, s'il vous plaît?
Mais avec le plus grand plaisir. Comme vous le savez, Joseph Souk est né à Cracovie en 1874. Il fut élève de Dvorak, dont il épousa du reste la fille. Sa musique est imprégnée d'une certaine influence de son maître.
Oui. Eh bien, l'occasion est trop belle pour que nous ne vous demandions pas de nous faire entendre une œuvre de Joseph Souk. Vous ne nous refuserez pas de faire ce plaisir à nos auditeurs?
Naturellement, non. Thank you.
France Musique, la deuxième des quatre pièces de Józef Suk, Appassionato, toujours Ginette et Jean Neveu, respectivement au violon et au piano. En fait, Ginette a une vraie sensibilité, aussi parce qu'elle a un intérêt réel pour la composition. Elle est d'ailleurs passée dans la classe de composition de Nadia Boulanger à l'École Normale. Elle gardera tout au long de sa vie une relation affectueuse avec sa professeure, avec laquelle elle jouera aussi. Durant les quelques mois passés à la classe, elle a le temps d'apprendre les rudiments de la composition et de se lancer elle-même. Ainsi, elle compose à 14 ans un caprice et 3 sonates pour violon seul. Puis, elle entame l'écriture d'un concerto de violon, dont nous n'avons malheureusement aucune trace. Le professeur Karl Flesch lui suggère plusieurs fois d'inscrire ses propres pièces au programme de ses récitals, ce que Ginette refuse de faire. Elle est une interprète, c'est tout. Même si elle se dit intuitive, Ginette a une conscience de la forme et du langage musical qui ne trompe pas dans ses interprétations. Flesch, très impressionné par sa manière de jouer le concerto de Sibelius, lui offre le matériel d'orchestre du concerto, les parties séparées, chose très rare à l'époque. Il n'en existe que quelques exemplaires. Car oui, le concerto de Sibelius est aussi une œuvre moderne. Sibelius l'a composée au tout début du XXe siècle et l'a remaniée en 1905. C'est en Angleterre, en Écosse et dans les pays scandinaves que le public le connaît bien et que Ginette le joue beaucoup. Mais l'œuvre est encore peu jouée en France.
Thank you.
Le deuxième mouvement, Adagio di Molto, du concerto de Sibelius avec Ginette Neveu au violon, l'orchestre Philharmonia était dirigé par Walter Suskind. Le compositeur finlandais, ayant entendu Ginette à la radio jouer son concerto, lui enverra un télégramme pour la féliciter chaleureusement de son interprétation magistrale. Pendant ses voyages, Ginette est animée d'une grande curiosité, par exemple lors de ses tournées aux États-Unis.
Eh bien, si nous parlions un peu des compositeurs, vous voulez bien. Avez-vous eu pendant vos pérégrinations la chance de trouver des auteurs nouveaux et d'ajouter leurs œuvres à votre répertoire?
Je n'ai pas eu l'occasion, dans cette dernière tournée, d'interpréter des œuvres de compositeurs américains. J'en ai entendu souvent, et parmi celles que j'ai entendues, j'ai fait la connaissance de M. Samuel Barber, que j'admire beaucoup.
L'histoire de la création du concerto pour violon de Samuel Barber est compliquée. Le concerto fut rejeté une première fois par son premier dédicataire, qui trouva les deux premiers mouvements trop faciles. Barber promet alors d'écrire un final plus difficile. Mais là encore, le violoniste râle. Cette fois, le final est trop difficile. Pas simple, parfois, pour les compositeurs de satisfaire les attentes des commanditaires. Dépité, Barber propose son concerto à un autre violoniste, le violoniste américain Albert Spalding, qui cherchait justement une œuvre américaine qu'il pourrait jouer lors de ses tournées. Spalding, enchanté, le crée dans la foulée en février 1941 avec l'orchestre de Philadelphie sous la direction d'Eugène Ormandy. Comme Ginette ne se déplaçait pas hors d'Europe à cette époque, ce n'est pas à ce moment-là qu'elle a entendu le concerto de Barber. Mais c'est sans doute en 1949. En effet, Barber n'étant pas entièrement satisfait, il retravaille le concerto en 1948 et la version finale fut créée en janvier 1949 par la violoniste américaine Ruth Posselt et l'orchestre symphonique de Boston sous la direction de Serge Koussevitzky. Et Ginette était en tournée aux États-Unis à cette période-là. Elle n'a sans doute pas eu le temps d'apprendre ce concerto. On peut juste imaginer comment elle l'aurait joué. Elle avait toutes les qualités pour magnifier cette œuvre. Aujourd'hui, c'est une autre grande dame du violon que je voudrais vous faire entendre dans le concerto de Barber. Une violoniste dont j'ai évoqué rapidement le nom lors du deuxième épisode consacré aux femmes et au violon. Il s'agit d'une contemporaine de Ginette Neveu puisqu'elle est née en 1921. La violoniste d'origine roumaine Lola Bobesco. Lola Bobesco étudia au Conservatoire de Paris dans la classe de Jules Boucherie, le professeur de Ginette au conservatoire. Elle fit une grande carrière. Installée en Belgique, suite à son 7e prix au concours Isaïe de 1937, vous vous souvenez peut-être, remporté par David Oistrakh. Le concours qui deviendra le concours de la reine Elisabeth. Nous écoutions un extrait du premier mouvement du concerto pour violon de Samuel Barber, concerto que Ginette Neveu découvrit lors d'une de ses tournées américaines. C'est un enregistrement de concert en novembre 1950 avec l'orchestre de la radio-télévision française sous Yasha Orenstein. 1950, un an après la disparition de la violoniste, on se dit que cela aurait pu être un concert joué par Ginette Neveu.
Mon cœur est un violon.
Marina Schiff, France Musique.
Ginette Neveu eut le temps de solliciter le compositeur Francis Poulenc pour qu'il lui écrive une sonate pour violon et piano. Ils deviendront amis et échangeront lors d'une correspondance assidue entre 1942 et 1943. En effet, Poulenc n'est pas à l'aise avec l'écriture pour violon. Comme il le précise lui-même, il n'aime pas le violon au singulier. Et il a des comptes à régler avec la sonate violon-piano. « Le monstre est au point », écrit-il. « Je vais commencer la réalisation. Ce n'est pas mal, je crois, et en tout cas fort différent de la sempiternelle ligne de violon-mélodie des sonates françaises du XIXe siècle. Le violon prima donna sur piano-arpège me fait vomir. » Il confessera plus tard que les quelques détails violonistiques savoureux de la partition sont accrédités à Ginette Neveu. Après de longs efforts du compositeur et une sacrée insistance de Ginette, la sonate verra le jour. Poulenc et Ginette Neveu la créeront pendant la guerre, le 21 juin 1943, à la salle Gaveau à Paris. C'est une pièce poignante et éminemment tragique. Elle est dédiée au poète Federico Garcia Lorca, assassiné en 1936 par les nationalistes lors de la guerre civile espagnole. Le deuxième mouvement reprend une citation de Garcia Lorca. « La guitare fait pleurer les songes. » Ce sont les pizzicatos du violon qui viennent figurer cette guitare imaginaire.
Thank you.
Le deuxième mouvement, intermezzo de la sonate pour violon et piano de Francis Poulenc. Yehudi Menuhin au violon et Jacques Février au piano. Jacques Février, d'ailleurs, interprète avec Poulenc de son concerto pour deux pianos. Avec la sonate, Ginette remporte un triomphe, même si des critiques relatives à l'œuvre sont négatives après coup. Poulenc l'écrit lui-même dans « Journal de mes mélodies ». « Ma sonate n'est hélas pas du meilleur Poulenc ». Il procédera à une révision de l'œuvre en 1949 après la mort de Ginette, mort qui lui brisera le cœur. Au-delà de leur collaboration autour de la sonate, Ginette Neveu et Francis Poulenc se sont produits ensemble en récital, notamment au Wigmore Hall de Londres. Poulenc est un bon pianiste. Il joue avec le baryton Pierre Bernac ou avec le violoncelliste Pierre Fournier qui crée sa sonate pour violoncelle et piano. Avec Fournier en récital, il joue par exemple l'arpégione de Schubert, la sonate de Debussy, la suite italienne de Stravinsky, et en bis, ils donnent ensemble une fort jolie pièce de Poulenc, la sérénade extraite des chansons gaillardes. De Francis Poulenc, nous écoutions la sérénade interprétée par Pierre Fournier au violoncelle et le compositeur Francis Poulenc au piano en 1953. On retrouve les pizzicato qui évoquent la guitare de Garcia Lorca, qui fait la sérénade cette fois. L'assassinat du poète espagnol inspira un autre compositeur qui écrit pour Ginette Neveu. Il s'agit de Federico Elizalde. Elizalde est un compositeur, pianiste classique et jazz d'origine espagnole. Il a étudié avec son aîné, Manuel de Falla, l'autre espagnol venu étudier à Paris. Dans sa musique, on retrouve bien sûr plusieurs influences entre couleurs hispaniques et jazz. Son concerto pour violon, dédié à la mémoire de Lorca, sera créé par Ginette Neveu à Bordeaux en 1944 sous la direction de Gaston Poulet. Gaston Poulet, chef d'orchestre et violoniste, qui a d'ailleurs créé la sonate pour violon et piano de Debussy, avec Debussy lui-même au piano en 1917. Pour l'enregistrement en première mondiale, ce ne sera pas Ginette qui jouera la partie de violon. Ce sera un autre prodige français, élève d'Enesco, le jeune Christian Ferras, âgé alors de 14 ans. Nous sommes en novembre 1947. Gaston Poulet dirige le London Symphony Orchestra.
Thank you.
France Musique un extrait du premier mouvement du concerto pour violon et orchestre de Federico Elizalde. Christian Ferras au violon et le London Symphony Orchestra dirigé par Gaston Poulet. Une autre pièce qui retiendra l'attention de Ginette Neveu, c'est la sonate pour violon seul du compositeur suisse Arthur Honegger, écrite en 1940.
Une chose qui m'a particulièrement impressionnée, c'est la nouvelle sonate qu'a écrite Honegger pour violon seul, et dont je suis particulièrement enchanté et enthousiaste. En dehors de cela, je vous parlerai également du compositeur Walton, qui est tellement connu, et dont son concerto est également une œuvre magnifique. Oui, oui.
Honegger est un membre du groupe des Six, avec Georges Auric, Darius Milhaud, Germaine Taillefer ou Francis Poulenc, justement, même s'il adopte un tout autre style que Poulenc à cette époque. Dans cette œuvre, on retrouve un souci de contrepoint et de polyphonie dans le style de Bach. Il faut dire qu'Honegger a été un élève du compositeur et organiste Charles-Marie Vidor, qui n'est autre que le grand-oncle de Ginette. Jean Cocteau rendit un joli hommage à Honegger. « Arthur, tu es parvenu à obtenir le respect d'une époque irrespectueuse. Tu joignais à la science d'un architecte du Moyen-Âge la simplicité d'un humble ouvrier des cathédrales. » Ginette établira les doigtés pour l'édition de cette sonate. On ne dispose pas d'enregistrement d'elle, mais on l'imagine bien jouer cette pièce avec fougue et donner à l'œuvre toute sa grandeur. Aujourd'hui, c'est encore Christian Ferras que nous écoutons dans un enregistrement de 1953. Du premier mouvement de la sonate pour violon seul d'Arthur Honegger, interprété par Christian Ferras en 1953, œuvre que Ginette Neveu affectionnait particulièrement. C'est avec le concerto de William Walton que je souhaiterais refermer cet épisode. Ce concerto fut écrit entre 1938 et 1939 à la demande du grand violoniste Yascha Heifetz. Walton eut beaucoup de mal à satisfaire le violoniste qui trouvait le concerto trop simple, décidément. Walton s'épuisa à complexifier la partie de violon, ce qu'il réussit magnifiquement. Après de longs et pénibles échanges avec Heifetz pour retravailler le troisième mouvement, Walton, alors âgé de 38 ans, est exténué. Il dira avec un humour british bien senti « Je conseille à tous les compositeurs un peu sensibles de mourir à 37 ans. Je sais que j'ai derrière moi mes jours heureux et que je suis mûr pour enfer et damnation. » C'est dire. La création aux États-Unis en 1939 par Heifetz fut un succès. Mais Walton n'était pas au bout de ses peines. Lors d'un bombardement juste après, à Londres, sa partition sera perdue. Lorsqu'on remettra la main dessus, Walton dira, encore une fois avec verve, « C'est vraiment dommage qu'elle ait été retrouvée. » Et ce n'est pas fini. La partition de Heifetz, avec tous ses doigtés et coups d'archet, sera elle aussi perdue lors d'un trajet maritime transatlantique. Après les 2 années d'exclusivité de Heifetz, Walton dirigera la première à Londres en 1941 avec un violoniste britannique. Il existe des versions enregistrées avec le compositeur à la baguette, avec Yascha Heifetz, et aussi avec Yehudi Menuhin. Mais aujourd'hui, c'est une version sublime que je veux vous faire entendre. Il s'agit d'une violoniste que nous avons déjà croisée plusieurs fois dans cette série. Une amie de Ginette Neveu qui prenait des classes avec Karl Flesch et Georges Enesco. Vous vous souvenez peut-être du 7e prix du concours Wieniawski, la merveilleuse Ida Haendel. Elle livre ici une version inspirée, claire et passionnée. Le premier mouvement du concerto du compositeur britannique William Walton, une version magistrale donnée par Ida Haendel au violon, le Bournemouth Symphony Orchestra, dirigé par le chef d'orchestre finlandais Paavo Berglund. En 1950, Ginette était programmée pour ce concerto de Walton sous la direction du chef britannique Sir John Barbirolli. Elle avait sans doute sa partition dans sa valise lors de ses tournées en 1949. Eh bien, dimanche prochain, nous serons justement en 1949 pour le concert d'adieu de Ginette. Ce sera le dernier épisode. Merci à l'équipe de l'émission, Philippe Petit, Valentin Carpentier, Claire Levasseur. Cet épisode est disponible à la réécoute ou en podcast sur francemusique.fr. Je vous dis à dimanche prochain à 17h.
Mon cœur est en violon.
À réécouter sur francemusique.fr.